Extrait de « Au-delà du seuil » d'Auguste Derleth.
Crois-tu que tu pourras dormir ? Me demanda Frolin lorsque nous fûmes seuls. Je secouai la tête. Impossible, je vais rester debout. Je ne crois pas qu'il aimerait que nous restions en bas, dit Frolin, fronçant légèrement le front. Dans ma chambre alors, et toi ?
Avec toi si cela ne t'ennuie pas. Il a l'intention d'aller jusqu'au bout, et il n'y a rien que nous puissions faire, tant qu'il n'aura pas besoin de nous.
Il nous appellera peut-être.
J'avais l'inconfortable conviction que si mon grand-père nous appelait, il serait déjà trop tard. Mais je m'abstins d'exprimer mes craintes. Les événements de cette nuit débutèrent de la même façon que la veille.
Par les accents de cette musique étrangement belle qui semblait jouée par des flûtes, et sourdre de l'obscurité enveloppant la maison. Puis peu de temps après, arrivèrent le vent et le froid, et cette voix qui ululait. Alors, quand une aura de malfaisance se fut appesantie sur la pièce au point que l'on y étouffait presque, un fait nouveau se produisit, quelque chose d'indicible et de terrible à la fois.
Nous étions assis, Frolin et moi, dans le noir. Je ne m'étais pas soucié d'allumer ma lampe électrique, car aucune lumière n'aurait pu révéler la source de ces manifestations. J'étais tourné vers la fenêtre, et quand le vent se leva, je fixai une fois encore la crête des arbres en me disant qu'assurément, que certainement, ils allaient se courber devant la grande tempête qui fondait sur eux. Mais là encore, rien. Pas le moindre mouvement. Un calme absolu. Et il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Les étoiles brillaient d'un vif éclat, les constellations de l'été descendaient vers l'ouest et inscrivaient dans le ciel la signature de l'automne. Le bruit du vent s'était élevé de façon régulière, si bien qu'il faisait rage maintenant, et pourtant rien. Nul mouvement ne venait agiter la cime des arbres qui se découpaient en noir sur le fond de ciel nocturne. Enfin, brusquement, si brusquement que durant un instant je clignai des yeux pour me convaincre qu'un rêve n'avait pas tout dérobé à ma vue. Dans une vaste zone du ciel, les étoiles disparurent. Je me levai et pressai mon visage contre la vitre. Tout se passait comme si un nuage s'était brutalement élevé dans le ciel au point d'atteindre presque le zénith. Mais aucun nuage n'aurait pu surgir dans le ciel avec une telle rapidité. Des deux côtés de cette zone et au-dessus de nos têtes, les étoiles brillaient toujours. J'ouvris la fenêtre et me penchai afin d'essayer de suivre la sombre silhouette qui se découpait sur le fond étoilé. C'était la silhouette de quelque grande bête, une horrible caricature humaine, qui se dressait jusqu'à un semblant de tête très haut dans le ciel, et là où auraient dû se trouver des yeux, on ne voyait que deux étoiles qui brillaient d'un intense feu carmin. Mais était-ce bien des étoiles ? Au même instant, un bruit de pas qui approchait résonna au point que la maison frémit et trembla sous leurs vibrations, que la fureur démoniaque du vent s'éleva jusqu'à des hauteurs indescriptibles et que le ululement atteignit un degré tel que ce fut à devenir fou.
« Frolin ! » appelai-je d'une voix rauque.
Je le sentis venir se poster à côté de moi et un instant plus tard, il m'étreignait le bras avec force. Ainsi donc, il avait vu, lui aussi. Ce n'était ni une hallucination, ni un rêve. Cette chose gigantesque se découpait bien sur les étoiles, et elle se déplaçait.
« Elle se déplace !» murmura Frolin.
« Oh mon Dieu, elle arrive !» Il s'éloigna précipitamment de la fenêtre, et je fis de même. Mais en une seconde, l'ombre avait disparu du ciel et les étoiles s'étaient mises à briller. Le vent, cependant, n'avait en rien décru, et peut-être même avait-il gagné pour le moment en sauvagerie et en violence. La maison tout entière était secouée et ébranlée, tandis que le bruit menaçant des pas réveillait les échos dans la vallée devant la maison. Le froid, en outre, devint si intense que notre haleine se changea en vapeur blanche. C'était un froid comme il en règne dans l'espace. Dans le trouble qui m'agitait, je songeais à la légende qu'avaient évoquée les travaux de mon grand-père,
la légende d'Ithaca, dont on lisait la signature dans ce froid et cette neige, propre aux lointaines régions du Nord. Au moment même où elle venait et me revenait en mémoire, un effroyable cœur de ululement, un chant triomphant que paraissait avoir entonné des milliers de bouches bestiales, vint tout chasser de mon esprit.
Ia, ia, Ithaca, Ithaca.
Simultanément, il y eut un fracas de tonnerre et aussitôt après, mon grand-père poussa un cri atroce. Un cri qui s'éleva jusqu'à n'être plus qu'un hurlement de terreur mortelle. Si bien que les noms qu'il aurait pu vouloir prononcer, celui de Frolin et le mien, se perdirent, refoulés dans sa gorge par la plénitude de l'horreur qui lui était révélée. Puis d'une manière tout aussi brutale que sa voix s'était interrompue, les autres manifestations cessèrent, laissant, une fois de plus, cet effroyable, ce monstrueux silence nous envelopper comme une nuée annonciatrice de la fin des temps. Frelin atteignit la porte de la chambre avant moi, mais je le suivis de près. Il tomba et descendit en glissant une partie de l'escalier, mais il retrouva son équilibre lorsque je l'éclairai à l'aide de la lampe électrique dont je m'étais emparée en sortant. Et c'est ensemble que nous nous attaquâmes à la porte du bureau tout en appelant mon grand-père. Nulle voix ne nous répondit, bien que le rayon de lumière jaune qui filtrait sous la porte nous eût assuré que la lampe brûlait encore. La porte était verrouillée de l'intérieur, aussi nous fallut-il la briser pour entrer. De mon grand-père, pas la moindre trace. Mais dans le mur est, une grande cavité béait à l'endroit même où le tableau, qui gisait maintenant sur le sol, avait été accroché. Une ouverture dans le roc qui donnait sur les profondeurs de la terre. Et tout, dans la pièce, portait la marque d'Ithaca. Un mince tapis de neige dont les cristaux brillaient comme des millions de petits bijoux sous la lumière jaune de la lampe de mon grand-père. Outre le tableau, seul le lit avait été dérangé, comme si mon grand-père en avait été littéralement arraché par une force prodigieuse.